qui inquiète beaucoup les lycées. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? C'est encore monté d'un cran aujourd'hui.
Bonsoir.
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 Nous sommes mercredi 13 avril 2016. Il est 19h passé de 1 minute. Pour une fois, nous sommes à l'heure et c'est l'heure du Canu Info.
Avec ce soir, égalité et citoyenneté, Manuel Valls est à Vaux-en-Velin aujourd'hui, en ce moment même.
Ensuite, on reviendra sur une nouvelle polémique sur le voile lancée par Manuel Valls himself.
La droite dégueu au Brésil.
Ensuite, on ira faire un tour du côté de Mayotte, qui est en pleine insurrection actuellement.
La page économie du Canu Info nous fera aujourd'hui un point sur la dette.
Ensuite, on reviendra sur la loi travail ou le contenu actuel, avec le contenu actuel et les rendez-vous sur Lyon.
Gros foutage de gueule, ce qu'on nous avait annoncé il y a un an, l'ouverture des archives sur le rôle de la France au Rwanda.
Ensuite, on passera à la rubrique « Il faut que ça se sache ».
Et si tout va bien, on aura le temps d'une petite page magazine où on vous annoncera le décès d'un grand de l'Ethio Jazz.
Et c'est à Vaux-en-Velin, ce mercredi 13 avril, que se sont réunis Manuel Valls et une dizaine de ministres, dont Macron, le ministre de l'économie, et El Khomri, la ministre du Travail. Bon, ça ne sert plus à rien de les présenter quand même, mais bon. Donc, il est venu pour piloter le troisième comité interministériel égalité-citoyenneté dans une ville où les lycéennes très mobilisées contre la loi travail ont été massivement réprimées la semaine dernière avec 28 interpellations. Une manif était appelée aujourd'hui à 14h contre ce meeting ministériel devant le lycée Douaneau. Et donc, selon le média local rebellion.info, sur le bilan de la journée, 600 personnes étaient présentes au rendez-vous après s'être approchées du commissariat où une vingtaine de personnes avaient été interpellées la semaine dernière. Elles sont parties en manif sauvage. Vers 16h, le périphérique a été envahi par une centaine de personnes. Et après 15 minutes d'occupation de la chaussée, la police a violemment chargé alors que les gens se repliaient. Il y a au moins 4 blessés assez graves, je crois. Et puis, pas mal quelques interpellations, mais je ne sais pas le nombre. Et ensuite, la manif s'est dispersée. Alors, si vous voulez donner plus de détails pendant ce Canu Info, n'hésitez pas à nous contacter sur le téléphone et nous vous passerons à l'antenne.
Téléphone du studio qui est le 04 78 39 18 15 04 78 39 18 15. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ce numéro, il est bien sûr disponible sur le site radio de Radio Canu.
Donc n'hésitez pas à nous appeler si vous êtes au rassemblement contre Manuel Valls à Vaux-en-Velin.
Voilà, et contrairement à d'habitude, même si on est en train de parler, vous pouvez nous appeler et on décrochera, on s'arrangera, il n'y aura pas de souci.
Et sinon, bah, je voulais prendre le temps de parler un peu de ce projet de loi, la égalité-citoyenneté, plein de bons sentiments, bien évidemment, qui s'annonce plutôt quand même de très mauvais augure au vu des propos racistes tenus la semaine dernière par Rossignol, la ministre du droit des femmes, etc., etc., qui a sous-entendu que la femme musulmane qui choisit librement de pratiquer sa foi et de porter un voile est comparée à un nègre qui aurait soutenu l'esclavage. Et la ministre Blanche a employé pour désigner les indigènes le mot que les esclavagistes avaient inventé pour qualifier le peuple noir asservi, autant dire, bon bref, une grosse boulette. Et donc dans ce climat-là, on va dire quand même, depuis pas mal, depuis toute l'année 2015, assez raciste, le gouvernement a donc présenté aujourd'hui à Vaud son projet qui vise notamment à favoriser l'engagement associatif, prévenir la formation de ghettos et lutter contre les discriminations. On peut se dire que c'est surtout une belle manière d'apaiser la colère de la rue avec quelques mots bien sentis. Ayant participé aux Nuits Debout, notamment samedi soir, je pouvais voir que le mot citoyen était dans quasi toutes les bouches. Donc, c'est bien senti. Bref. Alors, dans ce projet de loi, amélioration de la transparence dans l'attribution des logements sociaux. Avec l'obligation de rendre public les critères, le texte vise aussi à encourager la location choisie, permettant aux demandeurs de faire des demandes spécifiques pour les logements qui intéressent le plus, clarification des critères de priorité, possibilité pour les bailleurs sociaux de différencier les loyers des logements HLM. Voilà, et je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est tout des choses qui sont déjà à l'œuvre, qui existent déjà et qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil.
Je crois pas à la transparence quand même.
J'ai l'impression que les critères, ils sont déjà assez déterminés, mais bon. Ensuite, la généralisation de la réserve citoyenne. Et non pas l'armée, hein. On parle pas de l'armée là, on parle de la réserve citoyenne pour regrouper les dispositifs déjà existants dans la défense, la police, l'éducation nationale à destination des citoyens souhaitant s'engager ponctuellement au service de l'intérêt général. Ils pourraient par exemple participer aux interventions en cas de catastrophe naturelle pour lutter contre la propagation d'une épidémie. Bah ça fait quand même mal à entendre, hein. Servir bénévolement la nation, élan patriotique, dénoncer son voisin, tant de méfiance, tant de guerre. Bref, c'est pas, ça fait un peu flipper. Et pour le chapitre qu'ils ont nommé plus l'égalité dite réelle, renforcement de la lutte contre les discriminations avec le durcissement des sanctions face aux actes racistes. Et de discrimination. Donc, les auteurs d'injures risqueront à ce titre 1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. C'est un doublement des sanctions actuelles. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un renforcement juridique, mais lutte contre les discriminations, bah, on ne voit pas.
Il va quand même falloir que les membres du gouvernement fassent attention parce qu'ils vont se retrouver derrière les barreaux.
C'est ça. Donc, par rapport à des trucs proposés par des associations comme la lutte contre l'eau faciès qui avait pu être demandé ou les flics qui devaient filer un papier à chaque fois que les personnes étaient contrôlées pour signaler les abus, bon, ça ils en parlent pas, hein, ils parlent pas de tous les propos méga racistes entendus dans les médias quotidiennement. Ça non, c'est pas de la lutte contre les discriminations apparemment.
Alors, Valls lance une nouvelle polémique sur le voile et Valls accompagné de son gouvernement qui continue à jeter de l'huile sur le feu, ou alors peut-être qu'ils essayent de faire diversion avec leur loi travail qui soulève les foules. Parce que dans un entretien à Libération, Manuel Valls fait part de son regret de certaines règles constitutionnelles qui rendent difficile, voire empêchent, l'interdiction du voile à l'université. Il a déclaré donc sur la possibilité d'interdire le voile à l'université, je cite, qu'il faudrait le faire, et je continue de citer toujours, mais il y a des règles constitutionnelles qui rendent cette interdiction difficile. Il faut donc être intraitable sur l'application des règles de la laïcité dans l'enseignement supérieur. Bon, c'est vrai, ça, cette foutue constitution poussiéreuse, faudrait la moderniser un peu comme le code du travail. Mais a priori, les étudiants n'ont rien à foutre de l'interdiction du port du voile, à part 3-4 nazillons qui traînent dans les universités. Mais ils sont plutôt choqués du manque de moyens dans leur université et de l'état lamentable des facs. Et donc, pour répondre à Valls, ils ont lancé un hashtag sur Twitter. Alors, hashtag, vous savez, c'est le petit truc avec un symbole dièse suivi d'une suite de mots qui, là, est vrai problème université. Donc voilà, donc quand on tape ça dans Google, on tombe sur Twitter avec tous les gens qui ont posté des tweets qui s'agglomèrent sur ce hashtag vrai problème université, et où les étudiants font état de vrais problèmes dans leur fac. Exemple, 3 partiels en même temps pour lesquels il faut demander un examen de remplacement. Une autre personne qui dit: photo de mon cours, c'est pas le voile de l'étudiante, mais de faire les cours les pieds dans l'eau qui me pose problème. Être obligé, une autre personne qui dit être obligé de conserver son travail même s'il nous met au fond du trou, car sinon pas les moyens pour les études. Et une autre personne qui finit par, enfin, qui dit également: des vacataires pas payés pendant un an et le président de l'universitaire touchait une prime indue de 6 700 € par an. Donc voilà, donc ça c'est une réponse gentillette au Premier ministre. Et voilà.
Allez, on va prendre un peu d'air, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique, du côté de l'Amérique du Sud, où la droite se porte vraiment bien. Alors, on avait parlé de M. Macri, qui a pris la présidence du côté de l'Argentine. Hein. Vous savez, on avait vu qu'il avait muselé un petit peu la presse avec délectation. Du côté du Pérou, c'est quelqu'un qui a un joli nom, Madame Fujimori, qui est la fille du dictateur Fujimori, donc qui est favorite pour prendre le pouvoir du côté du Pérou. L'alternative, c'est quelqu'un de centre-droit. La gauche s'est complètement fait écrabouiller. Et puis on parle beaucoup du Brésil. Alors, il est vrai que actuellement c'est Dilma Rousseff qui est donc la représentante du Parti des Travailleurs, qui est présidente du Brésil. Visiblement, ils ont quand même bien trempé dans des problèmes de corruption pas génial. On va peut-être pas s'étendre trop là-dessus, mais il y a un très intéressant article de très très long de Basta qui nous parle, Basta Mag, qui nous parle un petit peu de la droite qui est en opposition évidemment à Dilma Rousseff, et puis qui donc du côté du Brésil a le vent en poupe, et ils sont quand même pas piqués des hannetons, et je vous propose un petit peu de les décrire. On pourrait dire du haut de gamme, quelque part. Alors, ils sont plutôt pas tellement motivés par les homosexuels. Donc, je reprends les mots de cet article. Ils éructent contre les homosexuels, les indigènes, les défenseurs de l'avortement et de la politique des quotas réservés aux gens de couleur. Ils se déchaînent contre les mouvements progressistes. Ils dénoncent la mainmise des Cubains sur les institutions fédérales. Ils fulminent contre les impôts, la corruption et les programmes sociaux du gouvernement. Ils exigent le rabaissement de la majorité pénale, c'est pas mal aussi ça, la restauration de la peine de mort, ben voilà, la libre circulation des armes à feu, le retrait des garanties juridiques pour les prisonniers de droit commun, etc., etc. Ils prônent un état archi-minimal, et alors, la cerise sur le gâteau, on va voir, c'est qu'ils sont un peu ultra-libéraux aussi, tu vois. Alors, c'est une analyse qui est donc expliquée dans cet article que je vous laisserai lire, qui parle en fait des grandes mobilisations qui ont eu lieu ces derniers temps sur fond de corruption. Mobilisations qui étaient très populaires et donc très suivies. Et puis, ces manifestations monstres, eh bien, elles ont eu tendance à légèrement se muter. Alors voilà ce que certains commentateurs brésiliens assez avisés, commentateurs, commentatrices, nous disent. Il y a une espèce de transfiguration du mouvement avec un subi glissement des revendications. Alors au début, c'était assez progressiste avec des demandes de baisse des prix des transports, meilleurs services publics, etc. Et puis là, désormais, c'est plutôt des slogans anti-système, complètement bougeadistes, nationalistes et autres termes un peu glauques que l'on voit. Et alors voilà, par exemple, c'est un historien qui s'appelle Gilberto Maroni qui parle désormais d'une révolte conservatrice du côté du Brésil. Un chroniqueur dans un journal qui s'appelle Aurelio Weisheimer qui dit « Ça avait commencé comme une grande mobilisation sociale. C'est en train de déboucher sous nos yeux sur une expérience sociale incontrôlable possédant des caractéristiques fascistes. On ne peut plus méprisable. » Alors, juste pour vous éclairer un petit peu sur ce mouvement, il est donc... il y a cette droite très audible actuellement qui est menée par plusieurs mouvements qui se sympathisent en fait puisqu'elles ont des intérêts communs. Alors parmi ces acteurs protestataires, il y a quatre collectifs qui tiennent le haut du pavé. Il y a le Movimento Brasil, Revoltos Online, etc. Enfin donc il y en a quatre. Et en fait ils n'ont pas arrêté de s'élargir. Leur base, leur audience fait que s'élargir au niveau donc du Brésil. Primo, donc je vous l'ai dit, ils se réclament de l'ultralibéralisme. Et puis voilà, eux, c'est ce qu'ils aiment bien, c'est la nation, les traditions, la religion, avec un culte aussi pour l'autorité et la force civile. Hein. Je vous rappelle quand même que le Brésil, c'est un pays qui a subi la dictature dans les années jusqu'au début des années 80. Et puis petite cerise sur le gâteau, comme je vous l'ai dit, hein, ils sont ouvertement xénophobes et racistes envers les Nordestins. Les Nordestins, c'est le nord-est du Brésil, où il y a des populations beaucoup plus pauvres que celles qui sont vers Sao Paulo. Et donc, quand on est riche et qu'on est riche, ou en tout cas quand on est relativement aisé, eh ben on n'aime pas trop des politiques qui dépensent des sous pour ces gens-là. Alors, juste pour dire quelques mots, voilà, sur une jolie comparaison qui va faire plaisir. Visiblement, cette jolie droite, eh ben, elle ressemble un petit peu au Tea Party du côté américain. Mais elle est un peu plus radicale. Et puis, un truc qui est assez sympa, c'est qu'elle est encore plus élitaire dans sa composition. Parce que quand même, le Brésil, c'est un pays où il y a des inégalités très, très grandes, abyssales. En tout cas, un peu plus qu'aux États-Unis. Et donc, ce Tea Party, ben, lui, il rassemble des gens qui sont raisonnablement bien nés. Et voilà, qui s'expriment et puis qui sont parfois nostalgiques de la dictature militaire, parfois ceci, parfois cela, mais c'est rarement des pauvres, hein, je vous rassure. En tous les cas, paré de ces nouveaux atours, cette espèce de Tea Party, voilà, ce serait j'ouvre les guillemets, la dernière mouture d'un vieux fond élitiste, réactionnaire, anticommuniste et antisocial de la société brésilienne converti en idéologie anti-pétiste. Alors pétiste, c'est le parti de la présidente Dilma Rousseff. Alors juste, je vous souhaite de lire cet article et conclure par un petit sucre, un petit sugar, avec des propos de quelqu'un qu'on va beaucoup aimer du côté de Radio Canus. C'est le champion toute catégorie de la parole débridée, enfin on peut dire champion toute catégorie de la connerie. C'est le député fédéral Jair Bolsonaro. Alors, il y a eu des accusations de violation des droits de l'homme par les militaires du rang de la dictature qui ont été portées par une députée. Et il lui a dit dans l'hémicycle, toi, je ne te violerai pas, toi, tu ne le mérites même pas. Voilà. Donc vous voyez un peu le style de
ah
Buste.
Ouais.
Et puis après, un député du Parti Socialisme et Liberté, il a dit que le PSOL était un parti de connards et de pédés. Voilà. Donc, il est vrai qu'il y a quand même un assez épais écran de fumée sur le fait que Dilma Rousseff et puis son parti auraient trempouillé dans des aspects pas très classe. Le problème, c'est que derrière, il y a une droite sans complexe qui se pointe son nez. Alors, juste pour vous dire que l'article conclut qu'il n'y a pas que des gugus complètement xénophobes. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit au début, des gens qui sont très très néolibéraux. Alors par exemple, lors du Forum des Libertés qui était sponsorisé par Iparanga, qui est une compagnie pétrolière, RBS, qui est la banque de Scotland, Socia Cruz, qui est British Tobacco, et PwC, qui est un cabinet de conseil, il y a quelqu'un qui a dit devant plein de monde, tous autant, et je conclue par ça, hein, je vous rassure, tous autant que nous sommes, nous, les 7 milliards et demi d'êtres humains qui vivent sur cette planète, nous sommes égoïstes. Voilà la vérité, mes chers amis du Brésil, nous sommes tous égoïstes. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise? Non, c'est tout simplement la réalité. Voilà, donc lui, il a, je sais pas, il a la canne à sucre dans les yeux.
Et si vous venez tout juste de nous écouter, on est revenu au tout doux début de ce Canu Info sur l'occupation du périph et l'accueil fait à Manuel Valls par des militants et militantes lyonnais. C'était juste pour vous rappeler le numéro du studio auquel vous pouvez nous joindre, c'est-à-dire le 04 78 39 18 15, au cas où vous ayez des informations plus récentes que ce qu'on est, si vous y étiez, tout ça pour nous raconter un peu ce qui s'était passé. On serait grandement ravis que vous le fassiez au 04 78 39 18 15.
Et là, on va parler de Mayotte, qui est en pleine insurrection. Donc, cette île française depuis 5 ans est actuellement paralysée par une grève générale qui a commencé le 30 mars. Le gouvernement annonce l'envoi de renforts sur place pour contenir la population, bien évidemment. Donc, blocage des axes principaux, pénurie dans les supermarchés, salariés en grève et en chômage technique. Depuis 2 semaines, Mayotte vit au rythme de cette grève générale. Les syndicalistes, salariés du privé comme du public, réclament l'égalité réelle avec l'Hexagone. Ils exigent une application immédiate du Code du travail national, des prestations sociales alignées sur la métropole et des mesures pour l'attractivité du territoire. Parce que, bah oui, c'est une île française, mais c'est pas du tout les mêmes droits. Chercher l'erreur. Donc, les Mahorais sont encore aux 39 heures. Beaucoup de mesures d'aide sociale sont également revues à la baisse. Par exemple, le RSA est fixé à 524 € en métropole. Il ne s'élève qu'à 262 € sur l'île. On ne sait pas pourquoi. Impossible aussi de bénéficier de l'aide pour le logement ou du congé parental. Vous voyez, c'est quand même... c'est pas pour rien que les gens font grève, quand même.
Sachant quand même que les gens qui sont pas, je pense aux profs, mais j'imagine tout un tas d'autres gens qui vont travailler ou qui sont mutés à Mayotte ou qui demandent leur mutation, eux continuent de toucher leur salaire, le salaire qui se passe en métropole.
Bien sûr. Et ça m'étonnerait qu'il soit aux 39 heures.
Ça marche pas dans le même sens.
Dans tous les sens, oui. Chaque jour, donc, dès l'aube, les syndicalistes érigent de multiples barrages sur la route principale, le seul axe qui relie les différentes communes du département. Donc, le souvenir de la grève générale de 2011 et de ses pénuries plane encore aujourd'hui. Et l'économie locale est déjà fragile et elle menace de s'effondrer. Et le mouvement ne donne pas de signe d'essoufflement. Lundi, les grévistes ont affirmé leur détermination à maintenir les barrages tant qu'un émissaire ne sera pas dépêché de Paris pour examiner leurs demandes. Et alors, pour ajouter la complexité à Mayotte, c'est que donc ce 101e département français doit faire face à l'immigration clandestine, pour la plupart venue des Comores. Un archipel situé à 70 km des côtes mahoraises. Et l'estimation, ça serait 40% de la population totale qui serait des clandestins. Et parmi eux, beaucoup de mineurs, souvent non scolarisés et livrés à eux-mêmes. Ce qui fait que là, il y a un climat en ce moment où les gens ont assez peur, puisqu'il y a des bandes de jeunes qui profitent un peu de l'occasion de la grève pour se livrer à des pillages. Il y a aussi eu des personnes poignardées, donc c'est pas c'est assez tendu, mais parce que si t'accueilles pas les gens correctement, ils sont tendus et ça on peut pas.
Alors,
faire
c'est pas du tout le but du gouvernement français d'accueillir les gens sur Mayotte, parce que vu que justement c'est, comme tu l'as dit, un département français, ils voient une autre porte d'entrée à la France, et alors ça les rend malades.
Non, et puis il y a eu j'ai déjà lu pas mal d'articles pour dire la répression qui sévit pour que les gens n'arrivent pas à Mayotte. Et les gens sont suffisamment déterminés pour y arriver quand même. Mais je veux dire, c'est hallucinant le flic-lèche qu'il y a déjà. Bref, et donc, la seule mesure que la ministre de l'Outre-mer qui s'appelle Langevin Pau, Langevin a annoncé, eh bien, c'est qu'elle va envoyer des renforts à Mayotte pour calmer la situation. Donc, quand on ne sait plus quoi faire, on met toujours plus de flics, toujours plus de flics. Et les deux, donc elle et le ministre de l'Intérieur ont aussi convenu d'améliorer la liaison entre leurs ministères sur les questions de sécurité en Outre-mer. Pas du tout pour essayer d'améliorer la condition de vie de tous les gens qui habitent en Outre-mer, mais pour augmenter la sécurité et pour faire en sorte que les gens restent bien cloîtrés sur l'île et voilà, ne rejoignent pas la métropole.
Ce qui me fait penser à une petite info dont je voulais parler ce soir, et puis après j'ai complètement oublié, mais je vais le faire quand même, mais je vais le faire rapidement du coup. C'est le gouvernement français qui a commandé cet automne, en fait, qui a passé une offre de marché public pour des balles en caoutchouc. Alors bon, les balles en caoutchouc, c'est-à-dire des balles de flashball.
On peut jouer pas au squash, quoi.
Quand on entend ballon en caoutchouc, on a l'impression que c'est pas très dangereux. En vrai, entre 2004 et 2012, c'est quand même 20 personnes éborgnées, c'est-à-dire plus ou moins 2 personnes par an, une personne morte. Dans la seule journée du 22 février 2014, 14 à Nantes, manifestation de soutien à la ZAD, 3 personnes éborgnées par des balles en caoutchouc. Donc voilà, c'est quand même ça que le gouvernement fait. Il a passé son marché public, alors qu'il a été remporté par une firme, je ne me rappelle plus, mais c'est globalement la firme qui arme les flics. Et il a quand même acheté pour 5 millions d'euros de balles en caoutchouc. Autant dire qu'un gouvernement qui achète pour 5 millions d'euros de balles en caoutchouc, c'est dire la politique qu'il prévoit de faire subir à sa population. Je veux dire, la politique globalement, c'est son besoin de s'armer. C'est bien qu'il se dit qu'il va y avoir des paquets de gens pas contents.
Donc, la seule solution, amener la répression.
Et nous ouvrons maintenant la page économie du Canu Info de ce soir.
Voilà, et là, en général, c'est un expert qui parle.
Ah bah, voilà. Ce
on ne sait pas d'où il sort, mais et ben, comme d'habitude, c'est un expert, on ne sait pas d'où il sort. Et donc, c'est sur Radio Canu. Non, c'est histoire de parler un petit peu de la dette. La dette, vous rappelez quand même que être endetté, en tous les cas, voilà, avoir souscrit un crédit, ben, vous êtes un petit peu, quand vous êtes comme ça... Vous restez sous contrôle. Et il y a des historiens qui ont expliqué hein, que, par exemple, l'expansion de la voiture du côté des États-Unis dans les années 30, c'était avant tout pour que les ménages se mettent un crédit pour avoir accès donc, à cette voiture. Et que donc, dans une certaine mesure, c'était une façon de contrôler indirectement les masses populaires, les ouvriers, par le crédit dans la mesure où donc ça les tient un petit peu. Donc pourquoi je vous parle de cet aspect de dette, de crédit, c'est que ça concerne aussi la France au sens de l'État. Et il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle L'ordre de la dette, qui est sorti tout récemment. Et c'est un sociologue qui s'appelle Benjamin Lemoine qui essaie de nous mettre un petit peu les yeux en face des trous sur cet aspect-là. Et je vous rassure, hein, il nous explique un tout petit peu que l'État est à la solde des banques parce que justement, on s'est auto-fait piéger, c'est-à-dire qu'on s'est auto-embarqué dans un truc pourri par la dette. Alors... Donc il nous explique que, en fait, pendant longtemps, la dette de l'État, c'est-à-dire que l'État, quand il avait besoin d'argent pour investir, eh bien, en fait, c'était matérialisé par des titres en papier que celles et ceux qui habitaient, voilà, par exemple en France, pouvaient détenir. Et donc c'était par la population qui avait cette dette. Et puis, progressivement, ça s'est dématérialisé et cette dette, c'est finalement vers les marchés financiers qu'on peut la retrouver. Donc ça a commencé dans les années 60. Où finalement c'est des hauts fonctionnaires avides de réformes, hein, super, hein, mais aussi il y avait des banquiers derrière qui voulaient un petit peu rompre avec le dirigisme de l'État, et bien ils voulaient que l'État redevienne un emprunteur comme les autres. Et donc ça s'est fait de façon un petit peu mondiale, et on s'est mis à démanteler les règlements qui régissent le financement de l'État, et on a réintroduit des dispositifs de marché pour la dette de l'État. Donc ce sera la loi de l'offre et de la demande, qui fixe les règles du jeu. En fait, ce sera les niveaux des taux d'intérêt, etc., etc., qui permettront donc à l'État d'emprunter de l'argent. Alors, si les marchés font la fine bouche, l'État n'a d'autre choix pour attirer l'épargne que de lui proposer des taux d'intérêt plus élevés, voilà, au risque de voir augmenter la part du service de sa dette dans la totale de ses dépenses. Bref, ça c'est un peu technique, mais bon, ça c'est poursuivi. Et puis, il y a quand même des gens qui se sont dit, voilà, si la dette, si l'État emprunte au niveau des banques, ça va profiter, ça va faire un enrichissement des banques. Ils ont été passablement inaudibles. Et puis les choses se sont mises en branle. L'État a dû, du coup, se diriger vers les banques, vers la finance. Et donc, ce n'est plus l'État qui dirige les banques, mais c'est la finance qui, quelque part, s'est mise, au travers de la dette, à apprendre à l'État à se discipliner, à veiller à ses dépenses, à son équilibre budgétaire, à l'aider à créer moins de monnaie pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Ben oui, parce que l'inflation, si vous sortez la planche à billets pour faire quelque chose de bien pour l'État, par exemple, eh bien, qui c'est qui perd des sous là-dedans ? Eh bien, si vous créez de l'inflation, les brosoufs coûtent, quelque part, elles coûtent moins cher, et donc c'est ceux qui ont de l'épargne qui se retrouvent lésés. Donc en fait, on ne fait pas de l'inflation, en particulier parce que celles et ceux qui sont en plein des sous, ils ne veulent pas qu'on déprécie leur pactole. Donc ça, c'est assez chouette. Alors, concernant la France, le coup de grâce, ça s'est passé pendant l'ère Mitterrand. C'est Pierre Bérégovoy, qui était ministre de l'économie, qui a finalement ouvert totalement le marché des capitaux. Et donc, c'est à partir de Mitterrand, la dette de l'État, c'est exclusivement de la dette de marché. Et donc, les hauts fonctionnaires du Trésor vont expliquer aux socialistes ce que le gouvernement doit légitimement faire afin de trouver de l'argent qui lui manque désormais. Donc voilà, ça y est, on est parti dans un truc où c'est non plus l'État qui parle aux banques, mais c'est les banques qui disent, écoute, si tu veux du flouze, il va falloir faire comme ci et comme ça. Voilà. Donc finalement, l'État a construit sa propre prison, c'est ce sociologue qui nous explique là. Voilà, au milieu des années 80, donc plus que la dette de marché, et les États doivent adopter des politiques économiques et monétaires conformes aux exigences des investisseurs. Du coup, une superbe et magnifique relation de dépendance s'est installée. Donc pour séduire au sens pour attirer les banques, il faut se transformer. Alors, vous connaissez la rengaine. Donc on plaît au marché financier en faisant de leurs priorités les priorités de l'État. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Les syndicats sont-ils trop puissants ? Le coût du travail est-il trop élevé, etc. Vous vous doutez bien un petit peu comment ce cercle vicieux s'est passé. Donc, c'est à retrouver donc dans un bouquin de ce sociologue qui s'appelle donc, comme je vous l'ai dit, Benjamin Lemoine. Juste pour préciser également que il y a un regroupement qui s'appelle le CADTM, c'est un petit peu différent, mais c'est le comité d'annulation de la dette du tiers-monde. C'est un peu le même principe, sauf que c'était plutôt du côté des pays pauvres, qu'on leur a prêté aussi de l'argent pour que de toute façon ils ne puissent pas la rembourser. Et puis ils ont des dettes colossales, ils sont pieds et mains liés, et puis de fait, quelque part on peut les diriger indirectement par la dette. Vous voyez, par la dette, on a contrôlé d'abord les masses populaires, après on a contrôlé les États, et puis du coup on a contrôlé certains États du tiers-monde, entre guillemets. Donc CADTM, qui publie d'ailleurs un super document que vous pouvez lire en ligne, qui s'appelle « Répondre aux questions qui piquent sur la dette et l'austérité ». Je vous rassure, c'est pas un document qui brosse dans le sens du poil le FMI, la Banque mondiale et la BCE. C'est plutôt un document qui montre que c'est, si ce n'est les sources du problème, en tout cas les noyaux de ce problème. CADTM, Comité d'annulation de la dette du tiers-monde.
Alors, un point sur la loi travail. Donc, n'hésitez pas, si vous étiez au rassemblement à Vaud aujourd'hui, à nous appeler pour nous donner plus de détails sur ce qui s'est joué aujourd'hui à Vaud, dans les manifs sauvages, avec les flics, etc.
Alors, on vous rappelle le numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre. C'est le, prenez vos stylos, 04 78 39 18 15 04 78 39 18 15.
Donc, malgré les déclarations de Valls qui veut apaiser la colère des jeunes, l'esprit du projet de loi travail demeure inchangé après quelques rafistolages en commission des affaires sociales. Ce projet de loi travail sera présenté et discuté au Parlement le 3 mai. Voici les points importants qui vont être modifiés. Les entreprises pourront avoir recours au licenciement économique plus facilement, puisque ce sera le cas lorsque leurs chiffres d'affaires ou leurs commandes baisseront d'un trimestre pour ceux qui emploient moins de 11 salariés, deux trimestres consécutifs pour une entreprise de 11 à 49 salariés et trois trimestres consécutifs pour une entreprise de 50 à 299 salariés. Donc ça, c'est tout ce qui est PMI-PME. Les grandes entreprises 300 salariés et plus qui perdent 4 trimestres consécutifs de chiffre d'affaires ou de commandes pourront également procéder à des licenciements économiques. Ces seuils ne pourront pas être fixés pour une durée inférieure par un accord de branche ou d'entreprise comme prévu par le projet de loi travail initial. Le problème, c'est que les critères de difficulté économique n'étant pas définis, les entreprises pourront, en l'état du projet, prendre prétexte à des pertes d'exploitation, une dégradation de trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent, s'ils veulent licencier des gens, ils peuvent magouiller un peu leur compta pour le faire passer tout à fait légalement. Quant aux difficultés économiques, il ne doit pas s'agir de faire des économies. Rappelons tout de même que ces entreprises perçoivent des aides de l'État pour justement surseoir aux difficultés économiques. Alors, sinon, par rapport à ces petites modifications qui ne changent en rien la loi, la visite médicale d'embauche demeure remplacée par une simple visite d'information et de prévention qui peut être effectuée par des personnes autre que le médecin du travail. Deux changements, donc le salarié se voit remettre une attestation de visite et les visites d'aptitude à occuper un poste prévu par le projet de loi travail sont supprimées. C'est génial, toutes ces lois qui font qu'on reçoit des papiers pour dire que la bureaucratie qui augmente de jour en jour. Donc voilà les grandes lignes, le reste est pas ou peu changé et les accords d'entreprise demeurent le principe de base, autrement dit, un code de travail par entreprise. Et le projet de loi adopté par la commission des affaires sociales, tel qu'il sera examiné par le Parlement, est consultable sur le site www.assemblée-nationale.fr. Et donc, pour que la pilule passe mieux, Valls et El Khomri ont annoncé des mesures pour les jeunes. Alors, ça fait grave envie. Hein. Chaque fois, ils font ça. Chaque mouvement social, ils font le coup. Alors, je vous les relis, parce que ça fait envie quand même. Aide à la recherche d'un premier emploi. Taxation des CDD. Élargissement des bourses. Garantie locative universelle en remplacement de la caution locative étudiante. CMUC pour les jeunes en rupture familiale. Hausse du salaire des apprentis. Simplification et accès aux droits. Un énième conseil national d'orientation des politiques de jeunesse. Mais par contre, si on regarde dans les détails, on peut voir qu'elles ne sont pas effectives immédiatement. Certaines sont prévues pour 2017, d'autres en attendant une énième loi dite égalité citoyenneté, quand il ne s'agit pas de rafistolage en reliant deux mesures en une. Bref, de l'arnaque, comme d'habitude.
Voilà, c'est juste le temps que Juppé arrive pour l'enlever. Et juste quand même, diviser pour régner, c'est une terminologie qui explique bien ça, c'est-à-dire que c'est ce qu'il fait, Valls. Il essaie de soudoyer un petit peu les jeunes. Après la CFDT, bon, alors
ça lui a pas coûté bien cher.
C'est pas très compliqué, mais c'est vraiment une approche. C'est stratégique, ça se voit, quoi.
Et alors, je vais finir avec les rendez-vous. Donc demain à 10h, AG Campus de Bron Amphi B. AG, Campus de Bron Amphi B à 10h, 13h, manifestation contre la loi travail au départ gratte-ciel Villeurbanne à destination du campus des quais de Lyon 2. Donc c'est bien à 13h la manif et à 16h On en reparlera tout à l'heure, mais il y a une manifestation pour la régularisation des étudiantes sans papier, mais on va en reparler. Et ce soir, chaque soir, là, depuis samedi, le mouvement Nuit Debout, il y a les gens qui vont squatter la place Guichard. Et ce soir, pas d'autorisation préfectorale, mais il y a des personnes qui se sont déjà rassemblées à partir de 18h. Et pour une nouvelle Nuit Debout, étant donné que lundi soir, il y avait 1200 personnes, ils vont avoir du mal à annuler cette Nuit Debout qui s'annonce pour ce soir. Alors, voilà.
Ouais, et puis c'est dans plusieurs villes. Moi, j'étais samedi soir à Clermont-Ferrand, il y avait 400 personnes.
Et à Grenoble aussi, il y a du monde. Bon, à Paris, on n'en parle plus parce que ça fait vraiment plusieurs semaines maintenant et que c'est devenu vraiment un rendez-vous. Vraiment, il y a plein de villes en France. Et du coup, c'est possible de retrouver des infos aussi sur ce mouvement sur un site internet qui s'appelle forum.nuitdebout.h, je sais pas. frassisé.fr et on peut trouver par exemple forum.nuitdebout.lyon.fr. On peut avoir et des infos générales et des infos spécifiques sur une ville. Et je pense que c'est une sorte de plateforme, ils ont dû généraliser ça un peu dans plusieurs villes pour pouvoir taper la même adresse. Et alors
Et on ouvre la page foutage de gueule de ce Canu Info.
Avec la promesse faite il y a un an par le président François Hollande de l'ouverture des archives de la présidence de la République en ce qui concerne le Rwanda pour la période de 1990 à 1995, c'est-à-dire les 4 ans qui précèdent le génocide et l'année qui suit le génocide. Une période pendant laquelle un certain nombre d'observateurs, de journalistes, d'historiens, de militants pensent que l'État français a surtout contribué à préparer le génocide, contribué à effectuer le génocide et contribué juste à la fin, une fois que les génocidaires avaient, malgré l'aide de la France, perdu la guerre, contribué à cacher le génocide et à mettre en place une politique négationniste. Donc, il y a un an, le 7 avril 1995, l'Élysée annonçait la déclassification des archives de la présidence de la République pour cette période, donc Rwanda 90-95. L'association Survie, qui s'était mobilisée toute l'année précédente pour l'ouverture de ses archives et qui avait remis une pétition à ce sujet au ministre de la Défense, une pétition signée par 7000 personnes, cette association a rapidement constaté, en voyant les archives qu'on lui proposait, que le compte n'y était pas vraiment. En effet, l'Élysée a filé, écoutez bien, 83 documents. 83 wow. Documents. La majorité de ces documents étaient de toute façon déjà connus par Survie, alors que bien sûr des milliers d'autres archives restent complètement inaccessibles aux chercheurs et à la justice, et à la justice internationale, et notamment les documents militaires. Depuis un an que cette promesse a été faite, le seul document qui a été vraiment rendu accessible, qui l'était pas déjà, a été rendu accessible par erreur, et puis parce qu'il est toujours classifié secret. Il a finalement été divulgué par Survie c'est la semaine dernière, et il suggère quand même que des opérations des forces spéciales françaises menées à partir de 93 ont été pilotés hors de tout circuit officiel par les conseillers militaires du président Mitterrand. Alors on se rappelle que pendant le génocide rwandais, en France, c'était la cohabitation, que le président de la République était François Mitterrand, mais qu'il y avait donc un gouvernement de droite,
Chirac.
Balladur.
Balamou, oui.
Balladur. Et... et que globalement la politique africaine, Mitterrand l'avait vraiment prise en main de toute façon avant la cohabitation, mais il l'avait quand même pas mal gardé pendant la cohabitation, c'est-à-dire que de toute façon l'armée obéissait un peu directement au président de la République. Après, la droite était là et a quand même vraiment aidé à toutes les saloperies que la France a faites au Rwanda, et pour les gens qui s'apprêtent à voter Juppé l'année prochaine en considérant que ça sera toujours mieux que de voter pour un socialo, c'est vrai d'un côté, mais d'un autre côté il faut savoir que Juppé à ce moment-là a été aussi au gouvernement et que lui fait partie des gens qui ont vraiment eu un sale rôle dans ce génocide qui, rappelons-le, a quand même fait 1 million de morts. Pour Fabrice Taritz, le président de survie, deux points, ouvrez les guillemets, depuis l'annonce tonitruante de l'année dernière, la société civile n'a eu accès qu'à un seul nouveau document, et par erreur puisqu'il n'est pas déclassifié. C'est une nouvelle illustration de l'arbitraire entourant le secret défense qui fait barrage à la vérité sur le rôle des autorités françaises avant, pendant et après le génocide des Tutsis au Rwanda. Alors, puisque les responsables politiques et militaires de l'époque disent n'avoir rien à cacher, pourquoi maintenir une telle chape de plomb ?
Peut-être parce qu'il y a trop de choses craignos dedans, peut-être. C'est peut-être ça. Ils ont ouvert et ils se sont dit, tiens, oh merde !
On pourrait dire que ça ne doit pas être tout à fait impossible.
Ça sent pas bon.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info contre la magie.
Voilà, on ouvre la page sur le suivi de ce qui se passe à Calais.
Eh ben ouais, sur le bilan de mars-avril, ben c'est assez dur, la pilule, elle passe vraiment pas. Puisque du lundi 29 février au mercredi 16 mars 2016, les habitations de presque 3500 personnes ont été détruites dans le bidonville de Calais par une simple décision administrative motivée par l'état d'urgence. Oui, je répète, par l'état d'urgence, qui est censé lutter contre des terroristes et pas des personnes sans papier, à laquelle les tribunaux n'ont rien trouvé à redire. On est face à un acte dont l'ampleur rappelle des temps de guerre ou d'occupation militaire, la Palestine occupée ou la guerre d'Algérie. C'est donc licite et ça peut recommencer demain à l'encontre de toute population que l'administration jugera indésirable. Une large part des habitantes de la partie sud du bidonville se sont donc réinstallées dans la partie nord, dont l'existence est elle-même en suspens, dont d'autres se sont dispersées entre Paris et d'autres lieux de passage, le long du littoral, de la Bretagne aux Pays-Bas et le long des voies de communication menant au littoral, ce qui provoque la réaction d'élus locaux mais aussi des autorités belges qui décident de rétablir les contrôles aux frontières sur le littoral en contravention des règles de fonctionnement de l'espace Schengen. Seules environ 700 personnes ont été dans le dispositif de relogement mis en place par l'État, camps de containers à Calais et centres de répit ou centres d'accueil et d'orientation dispersés partout en France. On peut dire d'ailleurs que ces dispositifs, ils sont vraiment pas... Il y a que 700 personnes, mais aussi ces dispositifs, ils sont abusés par rapport à la vie un peu intime que des personnes peuvent avoir, et c'est très dur d'y vivre là-dedans. Mais c'est plein de fois mieux que rien. Et ben, l'annonce de la destruction de la partie sud du bidonville a soulevé de nombreuses prises de position dans les médias, et le démarrage de celle-ci des manifestations de solidarité en France et dans plusieurs pays sur le terrain, la volonté des exilés de ne pas bouger s'est heurté le premier jour à l'action violente de la police. Le troisième jour, un groupe d'exilés iraniens a engagé une grève de la faim qui a duré 23 jours mais a été peu soutenue, qu'on a beaucoup relayé à Canu et dans d'autres médias aussi. Mais voilà. Et aussi, c'était pour dire que la situation, là, depuis 2 ans, fait que se durcir à Canet. Mais passer la frontière, les signes se multiplient de passage sur des petits bateaux, notamment de personnes venant des squats et campements du littoral. Et donc, qui veut dire petit bateau sur la Manche, qui est une mer quand même assez agitée, veut dire augmentation du nombre de morts.
Alors moi, je m'intéressais au retour du délit de solidarité. Vous vous souvenez, le délit de solidarité, c'est ce truc, alors qui bien sûr s'appelle pas comme ça, qui s'appelle aide à l'entrée et au séjour irrégulier. Une loi qui avait été votée à l'époque du gouvernement Sarkozy et qui punissait tous les gens qui aidaient des gens à rentrer illégalement en France ou à rester en France illégalement, c'est-à-dire qui leur filait toutes sortes de coups de main, payants, non payants. Donc c'était une loi qui était censée être une loi contre les passeurs. À l'époque, des associations avaient dit « Ah non, mais quand même, c'est vraiment dégueulasse de punir des gens qui juste aident des coups de main, parce que la loi, comme elle était rédigée, c'était ça qu'elle faisait. » Les socialistes en particulier trouvaient ça vraiment scandaleux et avaient promis de l'abolir. Bon, promesse de socialistes. Quand ils sont arrivés, ils ont effectivement fait une loi, enfin, rajouté, en fait, ils n'ont pas du tout aboli la loi. Ils ont juste rajouté une petite précision qui disait dans quel cadre on ne pouvait théoriquement pas être poursuivi pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier. Et donc là, il y avait entre autres, dans le premier cas, si on était de la famille, donc les enfants ou les parents ou quoi de la personne qu'on aidait. Ensuite, si on est marié à cette personne, sauf en cas de polygamie. Et troisièmement, et donc ça concerne toutes sortes de militants associatifs ou juste de personnes avec une générosité, je dirais, basique. Mmh. Troisième cas, du coup, les gens ne peuvent pas être poursuivis si dans le cas de voilà, toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité et l'intégrité physique de celui-ci.
Ouais, ça allait dans le bon sens quand même, ça.
Ça allait dans le bon sens. Alors après, il reste à voir ce que ça a donné en pratique. Et donc, en pratique, je vais vous raconter une ou deux petites histoires. Donc, je vais pas vraiment raconter parce qu'on a déjà beaucoup parlé dans ce Canu Info, mais je vais juste dire en une phrase. Le père Riffard à Saint-Étienne, qui a hébergé 70 personnes dans un local de l'église, un local qui est à l'église, et qui s'est retrouvé poursuivi dans les tribunaux, poursuivi, repoursuivi, appel, enfin, ça a vraiment été une sorte d'acharnement juridique contre lui. Je vais plutôt vous parler de Léopold Jacquins, 70 ans. En 2013, cet ancien dessinateur industriel chez Renault, militant associatif depuis près de 4 décennies et détenteur d'un casier judiciaire vierge, se retrouve devant la justice. Le parquet du Havre lui reproche d'avoir établi en 2011 et en 2012 deux fausses attestations d'hébergement pour une nana congolaise sans pape, 50 ans. Et elle avait besoin de ça juste pour déposer une demande de titre de séjour. Elle avait besoin d'habiter quelque part. Donc lui, il lui a juste fait des papiers. Il pensait globalement servir de boîte aux lettres. C'est un truc, en réalité, tout le monde fait ça tout le temps, je veux dire.
Oui, c'est ça.
Bon, vous savez pas qui je suis, hein. Moi, j'aurais fait des tonnes de ces certificats d'hébergement.
Mais surtout, c'est pas en écoutant ça que vous ayez peur. Enfin, je veux dire, ça comprend aucun risque.
C'est un truc qu'on fait tout le temps et que globalement, on a quand même pas des soucis pour ça parce que réellement, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit le courrier de quelqu'un dans notre boîte aux lettres et on le lui repasse. Tout le monde fait ça. Enfin, tout le monde. Tous les gens qui ont un minimum de niveau de dignité, là, et qui rencontrent des gens qui en ont besoin. C'est juste un geste basique. Les poursuites ont été engagées pour fausse déclaration par personne physique. Bon, le prévenu, donc ce bonhomme de 70 ans, lui, il parle d'humanisme. Il explique qu'en plus, cette nana, quand il l'a rencontrée, c'était à la permanence de la Croix-Rouge, qu'elle était malade et que pour poursuivre ses soins, elle avait besoin de cette attestation. Alors, le procureur s'emballe comme ça contre ce bonhomme qui est prêt à tout et n'importe quoi pour sa cause, etc., etc. Bon, bref, donc ce qu'il risquait, c'était quand même 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Dans la pratique, dans un premier temps, il a été condamné à 500 euros d'amende avec sursis. Il a fait appel, il a été relaxé, mais le procureur a fait appel à son tour et l'affaire est aujourd'hui en cassation. Tout ça pour 2 certificats d'hébergement. À Dijon, un militant de la Ligue des droits de l'homme, un gars qui s'appelle Paul Garrigue, a été condamné pour convoqué pour un rappel à la loi en janvier 2015. La justice lui reprochait d'avoir fourni 5 attestations d'hébergement, là encore, à des demandeurs d'asile. Bon, lui quand même, il parle aux journalistes, il leur dit non mais j'ai quand même encore le droit d'héberger qui je veux chez moi. Et le président de la LDH de Dijon précise que les demandeurs d'asile devaient de toute façon prouver le département dans lequel ils résident juste pour avoir droit à ce qu'on examine leur dossier. C'est-à-dire que de toute façon, ils ont besoin d'avoir un papier qui disent qu'ils habitent quelque part, quand bien même, c'est un peu compliqué de trouver de l'hébergement. Donc, s'ils n'ont pas de certificat d'hébergement, leur dossier ne peut pas être traité. Ensuite, on trouve sur le site Passeur d'Hospitalité, suite aux menaces de la police, ça c'est en mars-avril 2015, des exilés qui changent d'endroit, qui se font virer d'un endroit, qui vont à un endroit ailleurs, où les flics leur ont dit que là, ils pourraient y rester un moment. Des bénévoles qui viennent, qui leur filent des coups de main pour transporter leurs affaires avec leur véhicule. Là, les voitures, toutes systématiquement, prennent des amendes pour tout et n'importe quoi. Tous les prétextes sont bons, tous les petits trucs, les pneus sont un tout petit peu usés, les machins, tac, amende.
Je voulais aussi parler de à Calais, une personne qui avait pris des personnes migrantes en stop parce qu'il y avait des contrôles dans la gare et qui s'était fait prendre un délit de solidarité.
Voilà, à Noranfonde, c'est encore dans le Pas-de-Calais. Un campement d'exilés, bon, c'est un peu compliqué sur la commune, le maire, l'autre maire, nanana. En tout cas, sur le campement, deux baraquements brûlent accidentellement. Et là, il y a des bénévoles qui viennent aider les exilés à reconstruire les campements.
Oh, les salauds.
Eh ouais. Eh ben, poursuite en justice, convocation en gendarmerie. Un bénévole de Terre d'Errance a été entendu samedi 16 septembre. Par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête préliminaire menée par le procureur à cause des palettes, de la tôle et des bâches que l'association a commencé d'assembler pour abriter les exilés, ce qui passe par là.
Surtout que les bénévoles de Terre d'Errance, c'est eux-mêmes qui avaient déjà construit les cabanes au départ.
Ouais. Mais voilà, et en tout cas, voilà, un bénévole, et après, quelques jours après, c'était la présidente de l'association. Et enfin, ce qui se passe aujourd'hui, c'est cette fois-ci, c'est vraiment un truc où on passe. Parce que là, jusque-là, c'était des manières pour la répression de contourner l'espèce d'article qui avait été rajouté par les socialos. Mais là, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste une manière de l'ignorer complètement. Et donc c'est le maire d'un petit bled en Haute-Savoie, un gars qui s'appelle Fernand Bosson, qui lui a hébergé une famille venue du Kosovo qui avait déjà habité sur sa commune dans un foyer de demandeurs d'asile, puis ils avaient été déboutés de l'asile, donc virés du foyer. Et lui, il avait une maison de famille qui était inoccupée à ce moment-là. Il leur a dit qu'ils pouvaient s'installer dedans par juste parce que c'est normal, quoi. Sa maison était vide, il y avait des gens à la rue. Il leur a dit qu'ils pouvaient s'installer dedans. Et il s'est retrouvé poursuivi. Il s'est retrouvé condamné, mais dispensé de peine. Et sans compter que sous prétexte d'état d'urgence, la maison a quand même été attaquée par les flics en pleine nuit. Les gens ont été embarqués et ils ont pris une OQTF où ils devaient partir immédiatement de France. Alors que c'est des gens qui n'ont absolument rien à voir avec quoi que ce soit qui pourrait ressembler à l'islam, même de près ou de loin. Ce maire a été condamné. Du coup, commente le site Passeur d'Hospitalité. Nous sommes donc bien face à un retour de l'avant 2012 et à l'amplification d'une politique de la peur visant à dissuader la solidarité.
Une seule solution, la répression.
Ça sache.
Et alors, très vite, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais en tout cas, le collectif d'étudiants et étudiantes sans papier de Lyon et leur soutien appellent à une manifestation et à un rassemblement le 14 avril pour la régularisation collective des étudiants et étudiantes étrangers. Alors, le rendez-vous, c'est le jeudi 14 avril, c'est-à-dire demain à 16h devant l'entrée principale de l'Université Lyon 2, campus des quais, 4 bis rue de l'Université Lyon 7e, pour un départ en manifestation jusqu'à la préfecture et un rassemblement du coup devant la préfecture qui se tiendra à 17h avec la manif qui va le rejoindre, préfecture qui se situe rue de Bonnel à Lyon 3e, arrêt T1 Saxe préfecture. Voilà pour que l'étude des dossiers ne se fasse pas que au cas par cas, mais qu'ensuite ça puisse être se faire un peu sous la pression des gens. Et on me fait signe qu'on a fini le Socanu Info. Non, pas du tout.
On doit terminer par un morceau de musique que tu vas peut-être nous envoyer. Voilà, c'est juste pour terminer avec ce fond sonore par la musique de Getachew Mekuria, qui est une grande figure de la musique éthiopienne qui vient de décéder. Et en fait, c'est juste pour faire un petit flash comme ça sur cette musique qui a beaucoup souffert pendant le derg. Le derg, c'est la dictature qui a sévi du côté de l'Éthiopie, donc après le renversement de l'empereur Haïlé Sélassié. Donc une dictature très répressive qu'aimait, mais alors pas du tout la musique. Et donc plein de gens se sont retrouvés à être le bec cloué, à ne plus pouvoir jouer de la musique, en particulier donc ce Getachew Mekuria qui a été ressorti entre guillemets de son mutisme par un Français, Francis Falsetto, et qui est donc qui fait partie de la partie, alors immergée, la partie qu'on voit de l'iceberg, de cet iceberg à découvrir, la musique éthiopienne. Vous pouvez aller dans les meilleures médiathèques du coin, ou les moins bonnes d'ailleurs, au rayon Éthiopie, et redécouvrir ça. C'était donc un petit clin d'œil à la musique éthiopienne de Getachew Mekuria.
Et pour conclure ce Canu Info, on rappelle, ou on le dit, je ne sais plus trop, mais qu'il y aurait eu 14 interpellations aujourd'hui à Vaux-en-Velin. En tout cas, il y en a eu 10 de sur 6 sur le périph, 4 en revenant sur Vaux-en-Velin. Et prenez vos stylos, on vous donne le numéro de la Caisse de Solidarité, qui est le 06 43 08 50 32. 06 43 08 50 32. Si vous avez été témoin de ces arrestations, n'hésitez pas à les appeler pour qu'ils recueillent un maximum d'informations pour pouvoir constituer des dossiers pour la défense pour la suite éventuellement. Il est 20h, on va passer aux bandes continues. Le temps à Idée Noire de s'installer dans le studio.
Ciao. À la semaine prochaine. Ciao.